Bonjour à chacun, ça fait un plaisir d'ouvrir la parole de Dieu, parce que Dieu parle aujourd'hui. Alors pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on a parlé d'autorité, de reconnaître l'autorité de Dieu, de reconnaître ses bontés. Alors je ne sais pas comment a été votre semaine, est-ce que vous avez reconnu l'autorité de Dieu dans les choix, dans les aspects de vos vies? Est-ce que vous avez reconnu sa bonté, ses bienfaits, sa bienveillance, sa grâce? Ce matin, le texte qu'on va prendre, Marc 12, on est dans Marc 12, je vous invite à le prendre. On va poursuivre cette réflexion autour de l'autorité de Dieu, autour de la bonté de Dieu. On est toujours avec des gens en autorité, justement, qui souhaitent coincer Jésus. Je propose de prendre Marc 12, à partir du verset 13. Écoutez ce que nous retrace Marc sur des passages qui sont peut-être connus, mais riches en enseignements. Marc 12, verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies. » et que tu ne te laisses pas influencer par personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? Mais Jésus connaissait leur hypocrisie, leur répondit. Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ?»« Ben de l'empereur, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur de Dieu, et à Dieu, pardon, ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question « Maître !» Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et meurt sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième. Et aucun des sept n'a laissé de descendance. Après eux, tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? En effet, les sept l'ont eu pour épouse. Jésus leur dit, leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Alors ma première question que j'ai pour vous ce matin, quelle est ta plus grande préoccupation dans ta vie? Quelle est votre préoccupation? Quelle est la question à laquelle vous avez consacré le plus de temps cette semaine? Est-ce que c'était une question d'argent? J'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Réflexion sur l'investissement du mois. Comment le dépenser au mieux? Est-ce que c'était une question peut-être de santé? Préoccupé par votre santé, préoccupé peut-être par la santé d'un proche. C'était peut-être une question de relation, une relation qui est en train de se construire avec quelqu'un que vous appréciez et vous êtes encouragé, reconnaissant. Peut-être c'est une personne avec laquelle tu commences à prendre de la distance et ça te préoccupe. Peut-être de voir un proche, un enfant, un parent s'éloigner. Peut-être c'est une question par rapport à ton avenir, avenir professionnel, t'as du mal dans ta boîte. Peut-être la suite des études. On est en pleine phase hein, où nos étudiants, les bacheliers et tout ça, voilà, sont préoccupés par leurs examens, par leurs résultats, par voilà les possibilités qui vont s'ouvrir. Préoccupés peut-être par rechercher un appart, etc. Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Qu'est-ce qu'on va faire pour les vacances si c'est pas encore décidé? C'est peut-être pas une préoccupation comme un souci, mais peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est un rêve. Vous avez des projets plein la tête qui vous tiennent à cœur. Et donc cette semaine, tu as passé peut-être, probablement, un certain temps à réfléchir à ce genre de choses. Il y a plein de choses qui peuvent nous préoccuper. Cette semaine, j'ai eu le décès de mon oncle. Il avait une démarche de foi il y a plus de 50 ans. Et puis il a passé toute sa vie en refusant d'écouter Dieu. Il est où aujourd'hui? Ça peut te préoccuper de se dire... Deuxième question hein, par rapport à cela, cette préoccupation, mais dans quelle mesure cette préoccupation, ce souci, ce rêve, ce désir, dans quelle mesure est-ce que cette préoccupation te définit? Définit ton existence. On peut être parfois dans des préoccupations et voilà, ça définit ce qu'on est, notre identité. Dans notre texte, il y a trois questions. Vous les avez peut-être entendues, on ne sait peut-être pas trop le lien entre les trois questions. Mais ces trois questions définissent les personnes qui la posent. Il y a la question des pharisiens et des hérodiens, verset 14, il y a la question des sadducéens, et la dernière question d'un spécialiste de la loi, au verset 28. Et en fait, chacune des questions posées à Jésus, pour le prendre au piège d'ailleurs, notamment les deux premières, définissent l'existence des personnes qui la posent. Et les réponses de Jésus... qui peut-être voilà nous sont connus, peut-être nous qui sommes familiers pour certains avec la parole de Dieu, ben Jésus il est en train de placer son curseur autre part. Il leur montre un autre enjeu, une autre réalité que leurs préoccupations. Alors j'ai donné comme titre à ce que je vous propose de voir ce matin au travers de ce que la parole de Dieu nous dit, ne te plante pas de cible. Et j'ai mis en sous-titre, vivre pour ceux qui comptent vraiment. Ne te plante pas de cible. En fait, Jésus démasque assez rapidement hein, qu'on est venu à lui pour avec de très mauvaises intentions. Verset 15, regardez, hein, connaissant leur hypocrisie. On est face à Christ qui connaît nos cœurs. On ne peut pas le tromper. Et forcément, toutes les questions qui lui sont posées ne sont pas forcément sincères. Et on le voit depuis le chapitre 11, hein, on cherche à le piéger, on cherche à questionner en fait son autorité. On l'avait vu la semaine dernière, mais je rappelle, hein, il est face à des gens qui ont une autorité religieuse, une autorité peut-être politique pour une part. Ils sont à Jérusalem, le cœur du pays d'Israël, devant le temple, lieu d'autorité du culte par excellence et d'autorité y compris civile. Et c'est la question qui nous préoccupe depuis quelques versets dans cette portion de Marc, c'est qui a véritablement l'autorité? C'est qui le leader? C'est qui le roi? C'est qui est digne d'une obéissance? Qui est digne de notre respect, de notre adoration? Alors je vous propose de parcourir ces trois questions et de voir qu'en fait, Jésus va cibler un autre aspect du cœur que les préoccupations qu'ont ces personnes. Alors, première question, versets 13 à 17. On a vraiment la tentative de prendre Jésus au piège. Hein. Alors, vous avez vu un peu la flatterie, verset 14. Maître, nous savons que tu as des paroles qui sont vraies, que tu ne te laisses pas influencer par personne, que tu ne regardes pas à l'apparence des gens, que tu enseignes le chemin de Dieu, etc. Ouais, on ne sait pas trop s'ils pensent ce qu'ils disent. Hein. Est-ce qu'ils sont sincères? Mais voilà, si vous avez un doute, il faut regarder qui pose la question. Et là, peut-être vous savez pas, hein, mais les Hérodiens et les pharisiens. Et en fait, c'est deux catégories de personnes qui ont aucune raison de poser la même question, parce qu'ils ont des avis différents. C'est comme si, pour des élections présidentielles, vous avez le parti du Rassemblement National qui s'associe avec les écologistes, par exemple. Il y a rien en commun. Il y a tout qui leur oppose. Il y a rien qui est censé qu'ils fassent alliance ensemble pour une quelconque raison, si ce n'est à attaquer Christ. Et en fait, mais pour ces deux, il y a une chose qui leur est commune, c'est le rapport avec Rome, le rapport avec les Romains qui gèrent le pays, ils ont été envahis, le rôle de cette présence étrangère. Alors les Hérodiens, c'est, on entend Hérode, hein, c'est ceux qui sont mi-juifs, mi-païens et qui ont des responsabilités données justement par Hérode, données par les Romains, et ils sont au pouvoir, ils sont attirés par la richesse et ils collaborent, c'est les collaborateurs avec les Romains. Donc ça c'est les Hérodiens, collaborateurs avec les Romains. Et de l'autre côté les pharisiens, par contre eux, c'est les ultra-conservateurs, les juifs, le proche du peuple et qui haïssent profondément les étrangers, qui haïssent profondément les Romains et Rome. Tous les opposent. Mais là, pose une question, Jésus, que doit-on faire ? Une question vraiment piège. Est-il permis, Jésus ? Devons-nous, oui ou non, payer ? S'il dit oui, qu'il faut payer l'impôt, ben, il va passer pour un collabo, donc la foule va être moyennement convaincue. Et s'il dit non, ce sera l'agitateur, ce sera le révolutionnaire. Il faut l'arrêter, il faut le faire arrêter par Rome. C'est un piège. Imaginez un peu l'instant de tension. Et je trouve toute la sagesse, toute l'autorité de Christ dans sa réponse. Christ, au lieu de répondre, demande à ce qu'on ramène une pièce. Il est visuel, hein. Pourquoi cette pièce ? Moi, j'imagine la tension, hein, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire avec cette pièce ? Est-ce qu'il va la jeter par terre en signe, voilà comment vous devez traiter Rome ? Le piétiner par un geste anti-César ? Non, il pose une question. De qui est l'effigie ? De qui est l'image ? Qui est l'image qui est marquée sur cette pièce ? J'aurais pu prendre un euro de qui, voilà, de qui est cette pièce ? Et Jésus est clair, hein, verset 17. C'est l'empereur, hein. Alors rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur. Waouh ! Voilà la question, elle est réglée. Désolé les amis, paye tes impôts. C'est ce que Jésus est en train de dire à la foule. L'appartenance au royaume de Dieu, l'appartenance au peuple de Dieu ne nous exonère pas des exigences fiscales de notre pays auquel nous sommes soumis. Mais c'est pas vraiment là où Jésus veut pointer le regard. Parce que Jésus dit deux choses. Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur. Et la deuxième partie, à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu. Et j'aime l'image de la pièce parce que là, on peut se poser la question, mais sur qui Dieu a marqué son image ? Sur qui il a mis son tampon, pour dire, son empreinte ? Et là, on revient à l'origine de la parole de Dieu. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. L'homme est l'image et l'empreinte de Dieu. Voilà la réalité que Jésus est en train de pointer. Empereur, mais nous, créés par Dieu, pour Dieu, à son image. Donc on est rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà la vraie question. Voilà la réalité que Jésus veut nous montrer. Qui aura mon argent ? Qui aura mes impôts ? C'est pas ça la vraie question, mais c'est qui il aura toi ? Qui aura toi ? La vraie question, c'est à qui tu appartiens toi ? Et c'est cette réalité que Jésus veut nous rendre sensible. On est dans la même dimension que dimanche dernier. C'est une réalité que nous le savons tous, mais qu'on peut facilement oublier, à savoir qu'au final, notre vie ne nous appartient pas. La première question que Jésus veut nous montrer, il veut nous montrer, nous sommes sa propriété. Nous sommes marqués de son empreinte. Est-ce que l'un de vous a décidé du commencement de sa vie ? Non. Est-ce que quelqu'un décide de la fin de sa vie ? Non. Notre vie ne nous appartient pas. Elle est la sienne. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre. Que vous et moi, nous appartenons à Dieu. Et la preuve, il en a posé sur nous son effigie, son image. Nous sommes sa propriété personnelle. Il n'a pas fait ça avec les arbres, il n'a pas fait ça avec les animaux, mais il a créé l'homme et les femmes à son image. Nous sommes à son image, à son effigie. Et ce qui veut dire que si c'est cela, si ça c'est vrai, tout le reste change. Et quand on comprend qu'on est sa propriété, ben on est appelé à changer d'optique sur tous les autres aspects, sur sa vie, sur notre corps, sur notre argent, sur tout ce qui nous semble nous appartenir, sur notre vie d'église. Première réalité, tout ce que je possède ne m'appartient pas, parce que appartient à mon Créateur. On n'est que des intendants des diverses grâces que nous avons reçues de sa part. Alors c'est pas une question de dîme, de savoir combien de pourcentage je dois donner de ma vie. Dieu nous appelle, et là on le sait, c'est un rappel, hein, simplement, Dieu veut toute notre vie. Nous lui appartenons en totalité. Alors si votre vie n'est pas orientée vers Dieu, vers Jésus-Christ, elle est inutile et vive et vaine. Nous sommes sa propriété. Voilà ce que Jésus, avec cette première question, veut nous rappeler. Deuxième question, verset 18. On a les Sadducéens. Alors qui sont les Sadducéens ? La parole de Dieu nous le dit. Il dit, c'est les gens qui disent, il n'y a pas de résurrection. Ça, c'est leur question, ça, c'est leur préoccupation, c'est ça qui les définit. Les Sadducéens étaient réputés pour être des hommes qui démontraient que la résurrection, ça n'a aucun sens. Et c'est de cela, on le voit dans le texte, qu'ils veulent parler à Jésus. C'est la question qui les définit, c'est la préoccupation qui les définit. Et la question, elle est douteuse, hein, et la manière dont ils la posent, il n'y a pas de doute à avoir qu'ils veulent vraiment titiller au plus profond, hein. Versets 19 à 22, c'est la question. Voici ce que Moïse nous a prescrit, rappelle une loi. Si un homme meurt, laisse une femme sans avoir d'enfant, c'est son frère qui épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Ok. Voilà ce qui s'est passé, mais très bien, verset la suite. Il avait 7 frères. Voilà, il y a une histoire de 7 frères avec une épouse. Bon, bien sûr, premier mariage, deuxième mariage, etc. Là, vous voyez le truc? Vous imaginez, vous vous mariez 7 fois, mesdames, hein, et à chaque fois, tu dois réaliser un enterrement. 7 mariages, 7 enterrements. Tes maris meurent les uns après les autres. Toujours la même famille, toujours la belle famille. La belle famille. Aucun enfant n'est de cette union. Est-ce que c'est le genre de choses qui arrive tout le temps? Est-ce que c'est le genre de choses qui devait arriver dans le pays d'Israël? Je pense pas. Je pense que vraiment, ils titillent exprès pour essayer de pointer Jésus l'incohérence de cette loi, l'incohérence de cette réflexion d'une vie après la mort. Voilà la question. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Oui, c'est ça, cet homme. Quel des 7? Et au verset 24, de la même façon, Jésus répond de façon cinglante que la question, en fait, elle est ridicule. Verset 24, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Et il termine même l'échange, verset 27, vous êtes complètement dans l'erreur. Vous vous trompez de réflexion. On se trompe de cible. Vous vous trompez de question, vous vous trompez de préoccupation. Pour cette même raison. Pourquoi? Parce que verset 25, Jésus dit à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Point. Il n'y a pas de mariage dans l'éternité. Et Jésus leur dit une première chose qu'on a peut-être besoin d'entendre aussi. Qu'on soit marié, qu'on ait envie par-dessous de se marier, etc. On a besoin d'entendre ce que Jésus dit ici. Le mariage, c'est une institution temporaire pour cette planète Terre, si je reprends l'expression d'un de mes profs. Ça dure pas. Jésus dit, dans l'éternité, il n'y a pas de mariage. Mais Jésus s'arrête pas là parce que c'est pas ça là, le cible de sa réponse. Jésus veut amener ces gens-là plus loin dans leur réflexion, plus loin que la vie de couple, plus loin que la vie de famille. Il veut les emmener au-delà. Et il questionne la résurrection des morts. Et il revient, hein. Je trouve la question parle du livre de Moïse, Jésus pareil, hein, il les prend au mot. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit? Là, il fait allusion à l'Exode. Dans l'épisode des buissons, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il dit pas, j'étais le Dieu de Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac. J'étais le Dieu d'Abraham. Je suis. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Et quand Dieu a prononcé ces paroles, je suis le Dieu d'Abraham, hein, ça fait déjà 1500 ans avant Jésus-Christ. Bien sûr, Abraham, Isaac, Jacob étaient morts, et depuis des siècles. Et pourtant, Dieu se présente à Moïse comme étant leur Dieu. Je suis ce Dieu d'Abraham. Abraham est mort, il est plus sur la terre, mais il est avec son Dieu. Alors Dieu n'est pas un Dieu de cadavres, mais un Dieu des êtres vivants. Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Je suis le Dieu d'Abraham. Et donc où sont-ils ? Ils sont avec Dieu. Ils sont ressuscités à ses côtés dans l'éternité. Voici ce que Jésus est en train de dire. Ne passez pas à côté de l'essentiel. Que votre préoccupation d'affaires de couple, de vos affaires de famille, que cela ne vous fasse pas dévier de l'essentiel de la résurrection. Je suis le Dieu des vivants, le Dieu de la vie à venir. Et c'est, on a une destinée. Aux obsèques de mon oncle cette semaine, qu'est-ce qui nous définit ? Est-ce que c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a laissé comme trace ? Non. Ce qui nous détermine, c'est ce qu'on fait de cette destinée. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas ? Ne passons pas à côté de l'essentiel. Voilà ce qui est important. Ce n'est pas tellement ce qui se passe dans la vie maintenant, mais c'est de savoir, est-ce que tu es prêt pour cette vie qui est encore à venir ? On a des préoccupations du quotidien et qui sont légitimes, hein, qui semblent parfois énormes, qui nous sont majeures, et parfois, nous, on pourrait dire, nous pourrissent la vie. La question du mariage, du couple, de la famille, du deuil, de la stérilité, si on reste juste dans ce chapitre-là, dans ces questions-là, mais la Bible apporte un certain nombre de réponses. Mais la Bible nous présente qu'il y a une question essentielle, une réflexion essentielle qui doit vous préoccuper, c'est quelle est votre vie après ? Est-ce que tu es prêt pour celle qui est à venir ? Alors, Jésus nous dirait peut-être, ne passez pas votre vie à cogiter sur votre logement, sur votre vie de couple, sur votre vie de famille, sur vos loisirs, sur les objets que vous allez vous acquérir. Ces choses-là vont passer. Je l'ai déjà à de nombreuses reprises partagé. Elles passent. Mais nous sommes appelés à les replacer, ces réflexions-là, dans la bonne perspective. Elles ne durent qu'un instant, mais il y a la question de l'éternité que nous sommes appelés à nous poser. Et c'est ce que Jésus est en train de faire avec ce groupe de personnes. Nous avons une destinée. Troisième question, verset 28. À partir du verset 28. Cette fois, on a l'impression que c'est un petit tournant. C'est un spécialiste de la loi qui a vu les échanges, qui a entendu et qui a vu que Jésus avait bien répondu. Et en tant que spécialiste de la loi, il vient, il demande à Jésus quel est le premier commandement. Enfin, c'est encore un passage qu'on connaît. Ça, c'est sa question. Quel est le premier commandement ? Alors, je suis pas le spécialiste, mais il me semble qu'il y a entre 613 et 619, peut-être Mathieu me corrigera, mais commandements lévitiques qui sont présents dans la Torah, dans la parole de Dieu. Alors, je doute qu'entre vous, il y a peu de personnes qui perdent le sommeil d'essayer de classifier, de savoir lequel est le plus important, de faire une hiérarchie. Mais à l'époque, l'interprétation des commandements était une préoccupation pour le peuple. Ils se préoccupaient vraiment de ce qui était important, de ce qui ne l'était pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, le peuple juif avait tout perdu. Ils avaient perdu un roi, ils n'avaient plus vraiment de pays, ils étaient soumis aux Romains, comme on vient de l'entendre, leur langue était menacée par le latin et le grec, et tout ce qui leur restait, c'était la parole de Dieu, la Torah, et les promesses qui étaient associées, toute cette loi, les écrits de Moïse, d'où ils s'attachaient fermement à ce qui faisait un peu leur identité. Et plusieurs avaient la charge, ils étaient même payés, c'est ce spécialiste de la loi notamment, étaient payés pour assurer la protection, de veiller à ce que cette loi soit maintenue, gardée en éveil dans le peuple, et avoir la bonne interprétation. D'où cette question, c'est une préoccupation qu'il a cet homme, et il la pose à Jésus, et il veut sincèrement avoir une réponse. Moi, je suis chargé d'étudier, je suis chargé d'enseigner cette loi, et j'aimerais vraiment savoir, Jésus, qu'est-ce que t'en penses de tout cela ? Sauf qu'encore une fois, Jésus ne répond pas de suite à sa réflexion. il pointe une autre cible. Il répond avec une affirmation. Et parfois, j'ai remarqué que, à titre personnel, on comprend tout de suite, voilà, Jésus lui dit, premier commandement, aide mes dieux, mais il y a une autre phrase avant, et on passe trop vite, verset 29. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est une affirmation qui fonde le judaïsme, justement. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de conduire cette réflexion sur la loi, sur comment on doit vivre pour Dieu, à en fait, à revenir, mais c'est qui est au cœur, au centre? C'est le Dieu rédempteur. Il passe des règles à Dieu, du règle au rédempteur. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette affirmation? Pas beaucoup de choses, on pourrait dire, mais Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Bon, on apprend que Dieu est un. Alors pour nous, ça semble, on pourrait dire logique. On vit dans une culture occidentale où voilà, il y a les principales religions, c'est des religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Voilà, il y a un. Mais à l'époque de Jésus, Dieu un, c'était pas ce qui était c'est une information bouleversante quelque part de dire qu'il y a un Dieu un. Parce qu'il y avait des dieux pour l'agriculture, un dieu pour les transports, un dieu pour la communication, il y avait un dieu pour la fertilité, il y avait un dieu pour chacun des domaines de la vie, qui te préoccupait d'ailleurs. Et puis tout à coup, Dieu est intervenu auprès d'un petit peuple, en esclavage d'ailleurs, perdu nulle part, qui tout à coup commence à parler d'un seul dieu. Non, il faut pas s'adresser à plusieurs dieux, mais il faut s'adresser à un seul dieu. Un seul dieu qui gère tout. Un seul Dieu qui est créateur, qui gère notre univers, notre vie du début à la fin. Et ce peuple reconnaît, verset 29, hein, notre Dieu. Notre Dieu. Et pourquoi le peuple d'Israël peut dire notre Dieu? Pour la seule et simple raison, parce que Dieu a bien voulu, dans sa grâce, les rencontrer. C'est lui qui a fait sa démarche. C'est lui qui est venu les chercher. C'est lui qui est venu intervenir dans leur vie. C'est lui qui les a sortis de l'esclavage, qui les a sortis d'Égypte, qui les a conduits dans un nouveau royaume. Et c'est que, après avoir accompli cela, qu'il les a cherchés, qu'il est intervenu dans leur vie, qu'il leur a donné la loi. Qu'il leur a donné. Voilà comment vous devez vivre. Ce n'est qu'une fois qu'il les a sortis de la situation dans laquelle était ce petit peuple, qu'il va leur donner sa parole. Cette loi. En fait, en citant ce verset 29, Jésus est en train de montrer que la première chose que Dieu dit à son peuple, il les rappelle qui ils sont, avant de leur dire ce qu'ils ont à faire, qui nous sommes, et qu'est-ce que lui a déjà fait. En fait, c'est ça qu'on a besoin de comprendre ce matin, c'est on est libéré. C'est lui qui est venu nous rencontrer. Et c'est vrai que peut-être que plusieurs dans cette salle sont là aussi, de se dire, mais comment je peux plaire à Dieu? Comment je peux vivre pour Dieu? Et t'essayes de faire du bien, d'être une bonne personne, tu essayes de respecter les règles. Tout comme Israël, et tout comme Israël s'est planté lamentablement bien des fois. Parce que le problème, c'est le cœur. C'est le cœur. Et honnêtement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal avec la vie de l'Église. Parce que parfois, on oublie que c'est pas notre Église, mais c'est la sienne. La parole de Dieu, elle est claire. Nous sommes, en tant que peuple de Dieu, 100% des gens qui n'avaient pas choisi ce Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. Et on l'a vu la semaine dernière avec la parabole du vigneron. C'est lui qui est rempli de bien, de bonté et qui est venu. On est là ce matin parce que Dieu a fait notre connaissance. Parce que Dieu s'est révélé. Un Dieu dans sa grâce, dans sa bonté, qui ne nous demande pas d'être à la hauteur pour qu'il nous accepte. Il nous a montré qu'il a tout fait. Nous sommes libérés. Un Dieu qui par pure grâce est venu à racheter, a pris par lui, à ses propres frais, au moyen de son sang, on vient de le rappeler, de son Fils, la bande de minables que nous sommes tous. Et c'est ça que Jésus veut montrer. Parce que le jour où tu comprends cela, ou que avant d'aimer Dieu, c'est de réaliser que j'ai été aimé de Dieu. Alors, si on a été connu de ce Dieu rédempteur, comment ne pas l'aimer? Si on réalise tout ce qu'il a fait pour nous. Alors donc, c'est logique, verset 30, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Si tu le connais, si tu sais ce qu'il a fait pour toi, c'est la logique, la réponse logique. C'est pas dans l'autre sens. Lui t'a aimé comme cela, comment ne peux-tu pas répondre? Et du coup, comment ne pas aimer les autres autour de moi qui, en fait, ont besoin de cette même grâce? C'est lui qui a accompli la loi et on, voilà, c'est l'évangile. Après cet échange de trois questions, plus personne n'ose lui poser de questions. Après, c'est Jésus qui va poser les questions. Et on voit que Jésus, il a chaque fois montré que, en fait, la cible était mal choisie. Il veut réorienter pour ceux qui comptent vraiment. Et il nous ramène à des vraies préoccupations que nous sommes appelés à avoir chacun. Alors, de qui aura notre argent? Qui aura nos impôts? La question est plutôt, qui nous aura? À qui nous appartenons? Qui aura notre vie? D'une préoccupation quotidienne de vie de couple ou de vie de famille, c'est la question fondamentale qui doit nous préoccuper, c'est la vie à venir, la vie devant nous, la vie éternelle. Plutôt que de réfléchir qu'est-ce que je dois faire pour plaire ou ne pas plaire, ou déplaire, pardon, c'est l'idée de la connaissance d'un Dieu qui s'est révélé, d'un Dieu rédempteur. Et derrière toutes ces questions, c'est la question de se dire, et là je reviens, la réflexion du début, c'est qui a l'autorité? Qui a l'autorité? Alors, c'est la question de départ, hein. Quelle est votre préoccupation ce matin? Quelle est votre plus grande question, votre plus grand souci? Et Jésus ici nous invite, avec son autorité qu'il a, à les placer derrière ces trois perspectives, derrière ces trois questions, derrière ces trois réponses. Des préoccupations de santé, de travail, d'amour, d'argent. Mais réfléchissons à la cible proposée par Christ. Est-ce qu'on est conscient que si Jésus dit vrai, notre vie ne nous appartient plus? Est-ce que la pensée d'une résurrection, d'une vie éternelle, d'une vie abondante, d'une vie où il faut mettre un trésor, est-ce que cela impacte nos décisions, nos réflexions du quotidien, nos choix de vie aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît ce Dieu qui s'est révélé, rédempteur? Est-ce qu'on l'aime à tel point que, en fait, c'est pas un fardeau, c'est une joie de le servir, c'est une joie de l'aimer, c'est une joie d'aimer mes frères et sœurs? Alors voilà simplement la réflexion que j'aimerais vous laisser ce matin. Que cette parole puisse impacter vos cœurs. Je méditais hier soir encore un petit recueil de prières et regardez comment simplement... une personne du passé, très loin, de réformateur et puis prie, et je voudrais nous le laisser en conclusion. Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ton esprit. Qu'il me donne la foi de contempler, et on est dans cette question-là, mon nom gravé dans ta main. On connaît, hein, mon nom gravé dans ta main. Mon âme et mon corps qui a été racheté par ton sang. Je ne m'appartiens plus. Je suis sa propriété. Et j'ai une destinée couverte par le sang, et mon péché couvert par ta vie de pure obéissance. Parce que si nous sommes libérés, c'est que Jésus-Christ a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Amen. Je propose un peu de silence et je conclurai.